Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Alors que la population mondiale atteindra prochainement le seuil symbolique des 7 milliards d'habitants, Escale en profite cette semaine pour revenir sur les campagnes de recensement et sur le rôle joué par l'ONU pour qu'un maximum de pays procèdent à ce défi logistique aussi exigeant qu'indispensable. Pour la première fois dans l'histoire, presque tous les pays du monde tiendront un recensement dans le cadre du programme décennal 2010 de recensement de l'ONU qui se termine en 2014. Seuls 5 pays n'ont pas encore confirmé la date de leur recensement. Un progrès énorme quand on sait que 27 États n'en avaient pas organisé durant le programme de l'an 2000. Alors pourquoi est-il si important de comptabiliser la population d'un pays? Quelles sont les informations qualitatives et quantitatives recueillies? Ou encore quelles sont les applications concrètes d'un tel exercice? Y a-t-il des obstacles, des risques de dérive? Autant de questions que j'ai posées à Rachid Bouya de la division des statistiques de l'ONU.
En effet, cette année est particulière puisqu'on assiste donc au dépassement des 7 milliards. Enfin, on a atteint 7 milliards d'individus dans la planète. Donc c'est une année particulière également qui nous permet de faire le point ici à l'ONU sur les programmes de recensement. Donc les recensements, donc, ce sont des dénombrements de la population qui sont faits, qui sont menés par les pays. Donc depuis des siècles maintenant, les recensements étaient reconnus comme un outil majeur pour récolter et synthétiser de l'information sur les populations. La division statistique de l'ONU s'intéresse au recensement, en fait appuie le recensement parce que le recensement a un double intérêt pour la communauté internationale. Premièrement, il y a un intérêt au niveau national, au niveau des pays. C'est-à-dire que les recensements sont, comme je l'ai dit, sont un moyen de connaître mieux la population, de piloter les politiques économiques et sociales dans les pays. Le recensement est particulièrement important puisque c'est une source principale dans le système statistique des pays. Donc c'est une source à partir desquelles on va constituer, on va conduire d'autres enquêtes. Il y a aussi un intérêt international. Les recensements permettent de piloter la gouvernance mondiale. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui on atteint 7 milliards d'individus. Donc on a besoin de connaître ces populations, on a besoin d'essayer d'améliorer les réponses qu'on peut donner aux problématiques économiques et sociales.
Alors justement, Rachid Bouya, donc pour toute cette connaissance, finalement, c'est une sorte de grande photographie donc d'une réalité, d'une population. Est-ce que tous les pays ont les mêmes méthodes? Est-ce qu'ils ont tous les mêmes appareils photo, finalement, pour pouvoir photographier ces populations, quantifier? Et surtout, est-ce qu'ils ont tous les mêmes moyens? Parce qu'il faut quand même des moyens financiers.
Aujourd'hui, la plupart des pays continuent à mener des recensements qu'on appelle classiques, c'est-à-dire à avoir des questionnaires qui dénombrent l'ensemble de la population. Donc chaque individu dans le pays doit faire face à un intervieweur et donc répondre à ce questionnaire. Mais on assiste également, spécialement dans les pays développés, à une multiplication de techniques, notamment l'utilisation de registres qui peuvent être combinés à d'autres méthodes de collecte. Donc on assiste par exemple à l'utilisation d'Internet, téléphone portable. Donc les méthodes de recensement sont de plus en plus diversifiées.
Est-ce que donc justement les différents types de recensement sont fiables si on a des moyens différents de mesurer à un moment donné donc la population? Est-ce qu'on peut quand même compter sur les informations qui sont tirées de ces opérations de recensement?
Bien sûr, chaque nouvelle technique de recensement appelle une certaine expertise des statisticiens. Donc les statisticiens nationaux établissent des procédés homogènes, des procédés qui répondent aux normes internationales. Et donc là, l'ONU, nous, notre travail, c'est d'essayer d'homogénéiser tout ça. C'est-à-dire, on émet des normes, on émet des recommandations, des principes pour essayer d'avoir une comparabilité internationale. Et cette comparabilité internationale est de plus en plus nécessaire étant donné la population actuelle, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, le travail de l'ONU et le travail de la division statistique de l'ONU est donc axé sur cette homogénéisation.
Est-ce qu'également tous les pays peuvent procéder à des recensements? Est-ce que d'abord ils en ont les moyens et ensuite est-ce qu'ils en ont surtout la volonté?
Évidemment, les moyens ne sont pas les mêmes. Un recensement, ça coûte cher, notamment recensement classique. Et en termes de volonté, la plupart des pays se sont engagés à au moins faire un recensement sur la période 2005-2014. Donc ce n'est pas un problème vraiment de volonté, puisque tous les pays, presque tous les pays sont conscients des impératifs et des besoins en termes statistiques. Alors dans le cycle de recensement 2010, seulement 5 pays n'ont pas encore déclaré leur volonté de faire un recensement. Et c'est une nette amélioration par rapport au cycle de recensement précédent. Donc le cycle 2000, on avait à peu près 27 pays qui n'avaient pas effectué de recensement. En tant que statisticien à la division statistique de l'ONU, on constate une certaine amélioration, une augmentation de l'intérêt des pays pour le recensement. Donc le taux de couverture est de mieux en mieux et on pense que d'ici 2014, à peu près 99% de la population mondiale aura été recensée.
Alors vous parliez justement de l'importance de l'aide que vous apportez donc au sein, je le rappelle, de la division des statistiques des Nations Unies. Est-ce qu'également il y a une coopération nord-sud ou une coopération sud-sud entre pays? Est-ce que certains pays qui ont des techniques éprouvées ou des moyens ou carrément des chercheurs vont aider d'autres pays à mesurer le niveau, le nombre de leur population?
Bien sûr. Alors cette coopération, comme vous dites, sud-sud, se fait également dans le cadre des séminaires que l'ONU organise. Donc lorsqu'on organise des séminaires thématiques ou lorsqu'on émet des publications techniques, elles sont toujours basées sur l'expertise d'experts nationaux, donc qui sont de pays développés ou de pays en voie de développement. On va toujours chercher l'expérience de certains pays pour les mettre en valeur et permettre à des pays qui sont dans la même situation économique et sociale de s'en inspirer. Donc on a énormément de coopération entre les pays sud-sud sous l'égide de l'ONU. Et donc c'est aussi un de nos objectifs, nous, c'est essayer de mettre en contact à la fois à l'intérieur du pays les chercheurs, donc le milieu académique et l'Institut de Stats, mais également de mettre en contact les instituts de stats nationaux d'un pays à l'autre et donc essayer de faire surgir une certaine connaissance et une certaine pratique des recensements.
Est-ce que les recensements, avec quand même donc les différences que vous notiez tout à l'heure, permettent parfois de dégager de nouvelles tendances dans la façon de consommer des personnes, dans la façon de se loger, dans la vie quotidienne des gens et des tendances qui ne seraient pas relevées autrement?
Bien sûr, les recensements nous permettent de donner une image globale de la société. Et en fait, on a besoin pour cela d'utiliser des nomenclatures, donc des classifications. Et on a besoin, pour pouvoir comparer les données, d'avoir des classifications similaires. Cependant, les classifications doivent aussi répondre aux exigences nationales des pays. Et donc, qui vont répondre à des phénomènes culturels propres à chacun des pays. Donc, les grandes tendances aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui vivent seules. Les personnes sont aussi de plus en plus soucieuses de leur vie privée et les personnes sont de plus en plus exigeantes et donc c'est de plus en plus difficile de contacter. Et donc les méthodes classiques de recensement, en dehors de leur coût, on sait également un problème au niveau des taux de réponse, c'est-à-dire qu'il devient de plus en plus difficile d'avoir des taux de réponse. Donc le coût subjectif est encore plus élevé. Ce sont les nouveaux défis sur lesquels on travaille à l'ONU et dans les instituts de stats nationaux, c'est de se développer des outils pour pouvoir répondre à ces nouveaux challenges culturels.
Est-ce que justement vous vous adressez directement à la population pour lui dire écoutez, c'est dans votre intérêt que tout soit classifié, compté, pour que les intérêts économiques de la ville, l'importance d'une ville par rapport à une autre, soient pris en charge dans les choix politiques du gouvernement? Est-ce que vous essayez de leur montrer que finalement ce que vous faites, c'est pas du tout pour essayer de ficher en termes policiers une population, mais qu'au contraire ça a des incidences et ça peut aller en leur faveur dans un sens d'une amélioration de leur vie quotidienne?
Bien sûr. Alors d'une part, il y a une communication qui est faite par les instituts de stats. Donc l'ONU peut aider les pays en mettant en valeur les meilleures pratiques de communication, d'essayer d'expliquer quels sont les buts du recensement, quelles sont les fins du recensement. Mais il y a également aussi une politique plus structurelle, je dirais. C'est-à-dire quelle est la crédibilité de l'Institut Stats. Donc pour cela, il faut vraiment renforcer enfin la dépendance de l'Institut Stats par rapport au gouvernement en place. Et donc on a un éventail de recommandations internationales en termes structurels sur lesquelles on peut donner plus de crédibilité à l'Institut Stats et grâce auquel on va pouvoir donner plus de confiance aux individus, c'est-à-dire qu'ils vont être moins méfiants par rapport à l'utilisation potentielle des données. Bien sûr, il y a des dérives, donc dans l'histoire il y en a eu plusieurs, donc il y a une part de crédibilité des instituts Stats vis-à-vis des citoyens. Donc c'est dans l'intérêt absolu des instituts statistiques de faire en sorte que la confidentialité des données soit garantie. Donc l'ONU va mettre en valeur les meilleures pratiques, va émettre certaines recommandations en termes d'indépendance, en termes de confidentialité des données, qui s'adresse non seulement aux citoyens, mais également au gouvernement, aux politiques, mais également à l'Institut de statistique, parce qu'il y a aussi un problème de transfert de données. C'est-à-dire à quel point on peut transférer des données aux chercheurs. Il y a toujours des conflits dans les pays. Qu'est-ce qu'on peut donner en tant qu'institut de stat? Qu'est-ce qu'on doit garder? Donc c'est vraiment une question primordiale. C'est une question qui revient très fréquemment. Il y a toujours des tensions entre les chercheurs et les instituts de stat, parce que les uns ne veulent pas transférer les données, parce qu'ils ont peur des problèmes de confidentialité. Les autres veulent mener des études de plus en plus détaillées, donc aller au niveau individuel, etc. Donc on a besoin d'un socle de loi pour pouvoir garantir une sécurité pour tous. Tout ça, ça dépend un peu de l'histoire du pays, ça dépend des lois en place, mais tout ce cadre législatif relève du pays. Donc l'ONU ne peut donner que des conseils et mettre en valeur les meilleures pratiques visibles dans le monde.
Alors on a envisagé les dérives qui sont parfois causées, on va dire, par les gouvernements. Est-ce qu'également il peut y avoir du secteur privé des dérives également en termes donc de recherche marketing, de recherche de connaissances d'un marché, d'une niche? Est-ce que là également il faut lutter contre ce type de fléau?
Bien sûr, les données du recensement sont disponibles pour tous les citoyens, donc pour les particuliers, mais également pour les entreprises dans un certain cadre. Donc les données du recensement peuvent être utilisées par les entreprises pour du benchmark. Mais tout ça doit se faire, comme on l'a dit, tout en respectant les lois de confidentialité. La plupart des pays ont un certain cadre législatif, et donc les statisticiens sont amenés à hacher les données, à anonymiser les données, à agréger les données, c'est-à-dire afin que les entreprises ne puissent pas collecter des informations trop personnelles.
Poursuit depuis donc l'an 2000 et jusqu'en 2015 les fameux objectifs du millénaire pour le développement. Dans quelle mesure justement le fait de procéder à un recensement participe à la réalisation de ces objectifs?
Alors les objectifs du millénaire sont des objectifs chiffrés. Donc on sait que d'ici l'horizon 2014, on doit atteindre X taux d'alphabétisation, un certain taux de scolarité, etc. Et donc la division statistique de l'ONU dans tout ça va jouer un rôle de thermomètre. C'est-à-dire que les statistiques vont nous permettre un peu de mesurer où on en est et de savoir concrètement où en sont les politiques et qu'est-ce qu'on a encore besoin de faire et quels sont les efforts que les pays doivent mener. Donc c'est dans ce contexte-là que les statistiques sont très importantes, parce que ça nous permet d'avoir un regard le plus objectif possible et le moins biaisé possible sur le pilotage des politiques économiques et sociales.
Et donc est-ce que aujourd'hui, depuis donc, je le rappelle, l'an 2000, donc ça fait déjà 11 ans de réalisation des objectifs, est-ce que les recensements ont déjà permis de rectifier le tir ou d'essayer de se rapprocher de ces fameux objectifs?
Oui, bien sûr. En fait, les recensements sont, comme je le disais tout à l'heure, sont une source majeure dans le système statistique des pays. Et de nombreux pays, et spécialement des pays en voie de développement, utilisent le recensement pour produire des projections, pour calculer les objectifs du millénaire, donc calculer les taux. Le recensement peut apparaître comme une source par défaut. À travers les indicateurs qui sont calculés à partir du recensement, de nombreuses politiques ont été réajustées. Donc on a vu des phénomènes de réajustement, par exemple le taux de féminisation dans les parlements, par exemple, qui était très bas dans certains pays. Et ensuite, après la publication des indicateurs, on a vu une réelle augmentation. Donc on a une certaine plus-value des indicateurs, des objectifs du millénaire sur la réalité sociale et culturelle des pays membres de l'ONU.
Voilà, et c'est avec Rachid Bouya de la division des statistiques de l'ONU que se referme ce magazine Escale. Escale, un magazine consacré cette semaine au recensement des populations, un magazine préparé avec l'aide de Florence Westgaard et de Hermis Rivera. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.